Alors moi j'étais parti dans l'idée que vous étiez une petite église, un petit peu perdue au milieu de cette belle nature, et puis je pense que je ne me suis pas trompé, enfin je peux dire que vous n'êtes pas 300, vous êtes une petite église, ça veut dire que vous êtes dans le mode de persévérance, vous avez chaque jour, chaque dimanche que vous venez, vous espérez voir du monde qui arrive, vous dites tiens qui va passer la porte, est-ce que quelqu'un va taper au genou, est-ce que quelqu'un va être touché par le Seigneur. Et vous avez, c'est pareil partout, dans une grande, dans une petite église, on est au même niveau, on est dépendant de la grâce que Dieu va faire. Vous savez que dans le livre des Actes, il est dit que Dieu rajoutait chaque jour ceux qu'il sauvait lui-même, et l'église se remplissait par des personnes qui arrivaient. On croit aussi à l'évangélisation, bien sûr, mais personnellement, je ne suis pas loin d'être contre l'évangélisation, c'est fou d'ailleurs, mais ce que je vois, c'est que Dieu continue à travailler, et à amener des personnes dans l'église. On ne sait pas comment ça se fait, comment ils arrivent d'un coup, ils sont là. Presque régulièrement, on a, nous, à Dijon, des gens qui arrivent, on se dit, comment ça se fait que vous êtes là? Est-ce que vous avez... Non, je vous ai trouvé sur Internet. J'ai vu, j'ai cherché, Dieu me parle depuis un petit temps, je lis la Bible dans ta chèvre, ou de toute façon, et ils arrivent. J'ai une dame réunionnaise qui est arrivée, mais complètement... à la recherche de Dieu, un peu même perdue, en se demandant, mais qu'est-ce que je fais dans une église évangélique? Et parce qu'elle se confessait comme étant catholique, mais en même temps, elle dit, j'ai besoin de trouver la vie. Elle est arrivée dans une communauté, elle a ressenti la vie. Là, hier, le dimanche passé, il y a un garçon qui s'appelait toujours d'ailleurs Gustavo. Donc, vous le regarderez en rue, vous changerez le trottoir, parce qu'il est tatoué partout, dans le cou, un peu, visage. Et il dit, voilà, je suis touché par Dieu, je cherche Dieu. Et il rentre, et après ça, il vient nous remercier d'avoir passé la rencontre. On n'a rien fait. On a juste ouvert la porte, et on l'a accueilli. Mais Dieu travaille, Dieu continue à travailler. Et c'est justement le sujet de ce matin, quand il dit, Jésus dit, je bâtirai mon église. On ne peut pas faire autrement que compter sur Dieu. C'est lui qui le fait. Lorsque la première fois dans la Bible, le mot église est utilisé, en fait, le mot église, c'était même pas quelque chose qui nous appartenait. C'était un terme qui était utilisé dans la vie de tous les jours pour parler de communauté, réunion, mis à part, sortie d'une ecclésia, comme un peu une réunion de copropriétaires, imaginons, dans un bâtiment, et ils faisaient une réunion à part, on appelait ça une ecclésia. Donc le mot église n'appartenait même pas à la sphère religieuse. C'était simplement des personnes qui étaient appelées hors d'eux. Et ce que je crois, et c'est ce que Dieu fait, il appelle hors d'eux. Lorsque les premiers chrétiens se sont réunis, il n'y avait pas d'église. Mais au tout début de l'ère chrétienne, lorsque les apôtres, après la Pentecôte, se sont réunis, en fait, ils n'avaient pas de lieu où aller. Et c'est pourquoi le texte nous dit dans l'Évangile, dans le livre des Actes, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et ça, c'est les premiers chrétiens. Ils ne savaient pas où aller, ils allaient au temple. Pourquoi? Parce que c'était là le lieu où on avait toujours loué Dieu, servi Dieu. Mais en même temps, ils se réunissaient dans les maisons parce qu'ils voulaient en sorte de trouver. C'était bon. En tout cas, c'est cool d'avoir un jeune qui s'occupe de vos choses. Il y avait des réunions de maison, c'est vrai, mais ce n'était pas la norme non plus. Il y a eu assez rapidement l'église qui s'est calquée sur le système des synagogues, parce que le synagogue, c'est ce qui ressemblait le plus à une église. C'était des lieux où les personnes se réunissaient localement, en dehors du temple. Et donc l'église s'est très vite accommodée du système des synagogues. C'était un lieu commun, donc un petit peu ce qu'on dit ici, où on décidait de vivre ensemble. On aurait pu rester dans des maisons particulières, peu importe, puisque l'église n'a jamais été un bâtiment. L'église a toujours été un lieu où les personnes se retrouvent. L'histoire, en fait, nous montre que dès le départ, à Jérusalem, il devait y avoir 394 synagogues à Jérusalem, lorsque, dans les années 70, le temple fut détruit. On pense qu'il devait y avoir à peu près 400 synagogues tout autour. Et lorsque les apôtres, ou même Jésus, a commencé son évangile, le premier endroit où il allait, c'était dans les synagogues. C'était l'endroit où les gens se réunissaient dans le but de chanter à Dieu, de louer Dieu, d'apprendre sur Dieu. Les apôtres aussi, quand ils ont commencé leur ministère, et ils sont partis et ils ont toujours été d'abord vers les synagogues. C'était l'endroit le plus normal d'aller enseigner. Les synagogues se trouvaient sous l'autorité d'anciens, il y avait des responsables dans chaque synagogue, et ils avaient la responsabilité de s'occuper de la discipline. parce que c'était encore, c'est toujours, enfin, en tout cas à l'époque, c'était une théocratie, donc on voulait se mettre sous le regard de Dieu. Donc Dieu avait, dans ses, il y avait dans les synagogues des responsables pour la discipline, ils géraient les cas de dispute et ainsi de suite. Ils supervisaient le culte, ils étaient aussi ceux qui possédaient le texte. C'est pas tout le monde qui avait un rouleau de l'écriture chez eux à la maison. Donc c'était dans les synagogues que se trouvait l'écriture. Et en même temps, et ça c'est un truc qu'il faut savoir, mais heureusement on ne dit plus ça, ils exécutaient les punitions de flagellation. Donc lorsqu'on recevait des coups, ça, tu pouvais aller à la synagogue pour te faire battre quelque part. C'était leur façon de vivre l'autorité dans, les, enfin, dans la synagogue. Dans l'ancien, alors, pour ceux qui aiment l'hébreu, il faut savoir que les traducteurs n'ont pas utilisé le mot synagogue pour parler d'église, ils ont pris le mot hébreu kahal. Bon, bref, tout ça, c'est pas hyper important, c'est juste pour que ça, savoir que le mot église n'appartenait pas à un niveau religieux. Et surtout, que l'église n'a jamais été un bâtiment. Ça, j'imagine que vous le savez. L'église, elle est universelle. Vous êtes l'église universelle. Il y a dans le monde entier des églises universelles. Moi, je vois qu'il y a plusieurs nationalités ici, donc là, je pense que Madagascar, vous venez de quel Iran. Madame, vous venez de quel pays à l'origine?
Madagascar.
Madagascar aussi.
Burkina.
Burkina Faso.
Ouais.
Tu connais ces chansons?
Bénin.
Bénin. Donc, de ce côté-là en arrière?
Madagascar.
Madagascar aussi, j'imagine. Toi, juste derrière la dame en blanc.
Moi?
Oui.
Madagascar.
Ok. Tu es la progéniture. On a d'autres, l'Espagne, on a les États-Unis, là, je pense. Oui, Californie, vous êtes cavaillonnaise. Et Algérie. Donc, vous voyez, dans le monde entier, il y a les moines de Belgique. Donc, dans le monde entier, il y a une église universelle qui est là. Dieu fait des œuvres, et toi, tu viens d'où? Dieu fait des œuvres dans le monde entier, il a une église universelle. Mais l'église universelle, il faut qu'elle soit locale aussi. Il y a un moment où les chrétiens se réunissent ensemble, vivent ensemble. Et donc l'église locale n'est pas universelle, nous ne sommes pas toute l'église, mais l'église universelle est locale. Il y a des chrétiens, à un moment, qui décident de se réunir. Paul, quand il écrit sa lettre à l'église de Corinthe, il va appeler et il va dire qu'il écrit à tous ceux qui ont le même but commun. Tu peux mettre une image, s'il te plaît? Paul, appelé à être apôtre du Christ de Jésus par la volonté de Dieu, et le Père Saint, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Père. On est exactement cela. On est dans un lieu, à quelque endroit du monde, à quelque endroit que ce soit, et nous nous sommes réunis pour invoquer le Seigneur. C'est ça l'Église. C'est des personnes qui, à peu importe l'endroit du monde, se réunissent pour parler et pour rendre gloire à Dieu. L'Église a traversé depuis déjà maintenant 2 millions d'années, 2000 années, toutes sortes de formes, elle a vécu toutes sortes de tensions, elle a été à certains endroits persécutée, à d'autres elle était la persécutrice. Puis, nous voyons l'origine de l'Église. Et ça m'a toujours interpellé, parlé, et je reviens toujours à cet essentiel pour savoir, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? Dans quel but? Pourquoi l'Église est l'Église? Quelles sont les règles qui la dominent? Quelles devraient être au moins la base qui, dans tous les endroits qui existent sur Terre, c'est la base d'être chrétien. Finalement, on fait quoi? Parce que vous savez qu'on a tous des traditions. Hein. Qu'on le veuille ou qu'on dise qu'on est contre la tradition, on a des traditions. Et voilà le texte qui est fondateur de l'Église, ça se passe à la Pentecôte. C'est l'apôtre Pierre qui parle après avoir déclaré que la prophétie de Joël s'était accomplie, donc ça veut dire que donc les gens pensaient qu'ils étaient sous, et il dit non, on n'est pas sous, mais c'est le Seigneur qui nous a mis à cœur, voici la prophétie se réalise, vos fils et vos filles prophétiseront, Et donc, après avoir expliqué tout ce discours, donc il parle essentiellement des Juifs, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. La première prédication, je dirais, chrétienne, de l'ère de l'Église. Ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Et ça, je reviens toujours à cet essentiel quand je suis avec un nouveau croyant, parce qu'il me dit, « Mais voilà, mais qu'est-ce que je dois faire ?» On va commencer à lire, « Qu'est-ce que je dois faire ?» Parce que c'était la même question que les personnes avaient entendue pour cette prédication. Pierre leur répondit, changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à nous. Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant, recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoilée. Et à la suite. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Ça, c'est juste pour ceux qui n'aiment pas les grandes églises. Ben, Jésus, il a commencé avec une grande église. Vous savez, quand on parle de méga-church, c'est qu'on fait du web, une méga-church, c'est pas bien. Ben, la première église, c'est une méga-church. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges, de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. C'est beau, hein, on a une petite nostalgie en lisant ça. Déjà, quand on lit un texte comme ça, la première chose qu'on doit faire, il faut faire la différence entre ce qui était une description de l'époque, ce qui décrit des choses, par exemple, ils décrivent qu'ils étaient dans la cour du temple, nous, ce n'est pas une prescription, il n'est pas dit aller dans le temple. On voit que les premiers chrétiens ont fait ça. Les premiers chrétiens, il y a une description des choses, ce n'est pas une norme. Et puis alors, il y a aussi des prescriptions, les choses que nous devons faire. Comme il est dit, mettre l'image suivante, s'il te plaît. Ça, c'est une prescription. Donc ça, c'est pour tout le monde. C'est un ordre qui est universel. Changer. Changer. On ne devient pas, on n'est pas chrétien pour continuer à être ce que nous étions. Il faut changer. C'est ce qu'on appelle la conversion, le métanoïa, le 180 degrés. Il y a le changer. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est pas une suggestion. C'est une règle qui a été donnée à l'Église. Après, le fait que les gens vendaient leur maison, ça c'était une description. On voit bien qu'à certains endroits, les gens n'ont pas vendu leur maison. Mais en soi, l'idée de base, c'était que les gens étaient... Il y avait tellement de monde d'un coup, il y avait certainement des personnes qui étaient beaucoup plus aisées et d'autres qui n'avaient absolument rien. Il faut savoir en plus qu'à la Pentecôte, il y avait des personnes qui venaient d'un peu partout. Et l'Église, même si on voit que l'Église, le peuple était favorable, pendant une période, on sait très bien qu'après ça, le peuple n'était plus favorable. Et donc, il y a eu une période où des gens ont même perdu leur travail, ils ont perdu les relations et compagnie. Et donc, il fallait bien nourrir l'Église. Il fallait bien que tous ces gens-là aient fait quoi avec. Il y en a qui ont été jusqu'à vendre leur maison. C'est pas qu'il ait dit tout le monde va vendre sa maison. Ça, c'est une description. Parce que j'ai déjà entendu des gens qui me disent oui, il faudrait que tu vendes ta maison. Ben oui, bien sûr. Toi, t'en as pas, tu veux vendre la mienne, c'est sûr. Et toi, tu vas faire quoi? Ah ben moi, je vais recevoir ta maison. Oui, d'accord, mais on n'est pas là-dedans. Oui, mais c'est écrit dans la Bible. Oh là là, si tu commences à faire ça, vous voyez, prendre un texte descriptif pour montrer ce qui se passait, pour en faire une loi, oula, en fait, on est parti loin. Mais ce qui n'a pas bougé, c'est changer. Changer. On ne peut pas vivre l'Église sans changer. C'est impossible. On ne peut pas vivre l'Église en disant « Moi, le baptême, c'est une suggestion. Non, je ne me fais pas baptiser. » Moi, dès que je me rencontre un jeune, quelqu'un ou même plus âgé qui vient et qui me dit « Ah, mais moi, le baptême, je dis bah, « Écoute, la première chose qu'on te demande, c'est la première chose à laquelle tu vas désobéir. » Ça n'a pas de sens. Alors, pourquoi est-ce que tu ne veux pas te faire baptiser? Ben, souvent, la question, c'est « Oui, mais ça va faire des tensions dans la famille, ça va faire des... » Oui, mais ça, c'est suivre Jésus-Christ. Hein, qu'on le veuille ou non, suivre Jésus-Christ, ça a un coût. Et alors, je le rappelle souvent dans ces cas-là, quand la raison qu'ils invoquent n'est pas juste selon moi, je leur dis, mais tu sais, il y a quand même quelque chose qui est dit dans l'Écriture et à laquelle tu devrais faire attention, c'est que Jésus a clairement dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Et ça, ça n'a pas été dit pour les papillons qui étaient autour, c'était pour des personnes qui, à un certain moment, devaient assumer le fait de choisir Christ. Choisir Christ, ça a toujours coûté quelque chose. C'est impossible que ça ne coûte pas. Nous, on n'est pas encore trop persécutés dans nos pays. Mais il y a des endroits où accepter Jésus-Christ, je pense à l'Iran, parce que j'ai des amis qui sont iraniens, eh bien, ils ont tout perdu. Ils ont accepté Jésus-Christ, le garçon en question s'est fait tabasser par son père, par son frère, ils m'ont cassé les jambes, il a dû s'enfuir, il avait une société qui fonctionnait bien de couture, il avait 20 employés, il a dû fuir parce qu'il a accepté, il a reconnu publiquement qu'il acceptait Jésus-Christ comme Seigneur. Et parce qu'il voulait changer. Et donc vous avez ça, et donc cette idée de changer, se faire baptiser, et c'est tellement important que dans ce discours-là, l'apôtre Pierre va le dire une deuxième fois. À la fin de son discours, il va dire, Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Donc il y met de l'énergie, hein, il dit, bon, vous êtes beaucoup trop premier. Et il les encourageait en disant, recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoilée. Alors là, ça c'est encore un autre sujet qui est un peu difficile à vivre. Mais séparez-vous de cette génération dévoilée. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Parce que de tous mes amis, le jour de mon baptême, je leur écris une lettre d'adieu, je ne veux plus vous voir, plus jamais, adieu. On se retrouvera chacun de son côté, de l'autre côté de la mort. Donc, séparez-vous de cette génération dévoyée, c'est parce qu'il y a un moment où tu fréquentes. Moi, j'étais dans la drogue avant ma conversion, je vivais dans ce milieu-là, et il y a un moment où il a fallu que je quitte ce milieu-là. Je n'ai pas quitté mes amis, je voulais les garder en tant qu'amis. J'ai quitté cette façon de vivre. J'ai quitté ce modèle de vie qui était le mien. Il a fallu que je change, il a fallu que j'abandonne cette chose. Ça, je ne pourrais pas faire autrement. Mais j'ai gardé des amis qui sont anciens drogués, je les ai encore comme amis, mais je ne fais plus ce qu'ils faisaient. Je me suis séparé d'eux. Et puis il y en a certains, parce que je ne droguais plus, parce que je ne vendais plus, ben, ils ne m'ont plus vu et je n'étais plus leur ami. En plus de ça, Dieu dans sa grâce m'a fait devenir photographe pour la brigade judiciaire de la police de Bruxelles. Vous imaginez que mes amis ne voulaient plus voir. Ils disaient, on ne se reverra jamais. Mes amis. Et cette idée de changer, cette idée de vivre quelque chose d'autre, ça a été déjà la prescription que Jean-Baptiste avait donnée, qui était un petit peu le baptême préfiguratif de ce que Jésus allait faire. Quand Jésus va venir, d'abord Jean-Baptiste est venu au tout début, et il a baptisé aussi. Moi, je vous baptise, c'est les paroles de Jean-Baptiste, avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Il tient en sa main la pelle avalée et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Quand Jean-Baptiste parle de ça, il dit, ok, vous voulez changer, d'accord. Eh bien, prouvez-le par votre baptême. Mais attention, il faut changer, parce que celui qui vient après moi, il a le pouvoir de vous jeter en enfer, ou de vous amener dans son paradis, c'est ça l'idée du grenier, ou de cet endroit qui ne s'éteint jamais. Et donc, Jean-Baptiste est là, vous savez qu'il y a même des pharisiens qui sont arrivés, des religieux qui voulaient aussi se faire baptiser, et Jean-Baptiste sera dit, partez d'ici, hypocrite, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il était en train de dire, vous ne voulez pas changer. Vous n'êtes pas là parce que vous voulez changer, vous n'êtes pas là parce que vous voulez demander pardon à Dieu et vivre une nouvelle vie, changer de comportement, accepter la grâce de Dieu, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour la galerie, vous êtes là pour faire la coutume. Et c'est là où Jean-Baptiste est dur avec lui. Et en même temps, il précise que celui qui va venir va sceller le sort de ces gens-là. Il va sceller le sort des personnes. Quand Jésus vient et présenter quelqu'un qui est avec une pelle avalée, j'imagine vous savez ce que c'est, valet. Moi, il a fallu qu'on m'explique. Alors, compassion, je vais vous l'expliquer. Quand on bat du blé, à un certain moment, le grain reste sur le sol, et puis il y a tout ce qui est dans les écorces encore un petit peu. Donc, on a d'abord tapé, on sépare les épis, les branches, et compagnie. Et puis, on prend une pelle et on jette le blé en l'air. Et avec le vent, les écorces qui sont autour de blé vont s'envoler et être séparées. Le blé va retomber sur le sol et la membrane autour va s'envoler. C'est ce qu'on appelle vanner. Donc, il y a cette idée de dire, il y a une partie qui va être jetée au feu et il y a une autre partie qu'on va emmagasiner dans un grenier. Et c'est le rôle de Jésus. Et c'est pour nous que ça a été écrit. Ça a été écrit pour que l'on comprenne que le moment de l'entrée dans l'Église est le moment du changement. C'est le moment d'être quelqu'un d'autre. Quand il est dit ici changer, c'est pas compliqué ce changement. C'est juste demander pardon à Dieu. Le changement n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On ne se convertit pas parce qu'on a bien étudié l'ensemble des 12 ou des 15 confession de foi, et au bout de la confession de foi, on se rend compte simplement qu'on a péché contre Dieu et on veut lui demander pardon. On se rend compte au fond de nous que nous ne sommes pas bons, que nous ne méritons pas, que si nous nous présentons devant Dieu, nous prenons un coup. Et le mode de changement, c'est l'idée simplement de demander pardon. Mes parents, alors j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma jeunesse, et à un certain moment, je me souviendrai toujours de cette parole dont je m'étais converti. Enfin, Dieu m'a amené à lui, je préfère cette mot-là. Donc j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Et j'étais quand même encore turbulent hein, comme garçon. Et il y avait des choses que je n'avais pas digérées dans la relation avec mon père et mes parents, et moi. Et moi, naturellement, après ma conversion, ben, je leur ai demandé pardon pour les bêtises que j'avais faites, parce que je les en avais fait voir de toutes les couleurs. Et à ce moment, je me souviens, j'avais dit à mon père, mais écoute, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Et mon père était dur et froid à ce moment-là. Et il me dit, ah ouais, mais demander pardon, c'est trop facile. Je dis, ben, si c'est trop facile, demande-moi pardon à moi aussi, alors. Parce que tu m'as aussi fait du mal. Enfin, il dit, ça non. Tu vois, c'est pas facile. Alors, demander pardon, s'humilier devant Dieu, c'est la voie, c'est de savoir que lui, il a la puissance de nous écraser, mais plutôt que de nous écraser, chose qu'on mériterait, il a décidé de nous pardonner. Et cette demande de pardon est accompagnée du changement, parce qu'on ne va pas faire la même chose que Dieu ne supporte pas. Ça n'aurait pas de sens de continuer à pécher si Dieu veut nous pardonner du péché, même si malheureusement on pêche encore. Heureusement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Je veux bien en profiter. Ça arrive bien en plus. Paul va parler alors maintenant de cette église et de tous ces gens qui se réunissent. Peu importe les endroits du monde, et ils se réunissent, ils invoquent le Seigneur, et finalement ils nous disent ce que l'on est. On n'est plus ce que nous étions, puisque nous devions nous séparer de cette génération d'égoïstes, puisque nous devons changer, puisque nous recevons le Saint-Esprit, puisque maintenant nous sommes justifiés, pardonnés. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà l'Église qui est naissante. Voilà l'Église où Paul va parler encore aux Corinthiens, au chapitre 12, il va leur préciser ce qu'il est. Je pense que c'est 1 Corinthiens 12-14. Je pense que tu peux aller plus loin. Voilà, c'est ça. Le corps humain forme un tout. Et donc Paul, il va parler d'un corps. Tout le monde sait ce que c'est qu'un corps. Le corps humain forme un tout, et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit, pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves, hommes libres. Et c'est le seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Voilà. Quand Paul parle alors maintenant à cette église, à cette communauté de gens, ils ne disent pas « vous êtes un ensemble individuel », non, vous êtes un ensemble unique. Un corps ne peut pas se passer d'une pièce. Enfin, on enlève des pièces, mais en général, quand on enlève une pièce, on va pas forcément mieux. C'est plus dangereux. Et Paul, quand il parle finalement, pour expliquer à toute cette communauté de croyants, on leur dit, oui, mais vous êtes quoi finalement? On s'est séparés des autres, ben vous faites quoi? Mais vous êtes un corps, vous êtes unis. Et c'est pas n'importe quel corps. En même temps que l'image suivante, il va dire que sur ce corps, sur cette église, trône la tête. Il n'y a personne ici qui est la tête. La tête, c'est Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Est-ce que vous vous imaginez, ou est-ce qu'on prend conscience, c'est super fou, je dis, est-ce qu'on prend conscience de ce que cela veut dire, que Christ est le corps, et que Christ, nous sommes le corps, et qu'il est la tête. Ça veut dire qu'en ce moment, sur vous, ah ça va, hein, c'est bon, je prendrai un verre d'eau après. Merci. Ouais, j'ai chaud partout, hein. Dès que je prêche, je transpire, ça se voit, ma femme elle me ferait des remarques en disant « t'as encore mis une chemise claire alors que tu pêches ?» Ouais, je... Ça sent pas, je mets des vidéos. Et les humoristes, voilà. Donc, Christ, nous, même si on est petit, même si on est presque inconnu, incognito, nous sommes gouverné par le même Christ, la même tête, que si on était 300, que si on était 3000, que si on était 300 000, qu'on est 2 ou 4, la tête est la même. Nous sommes le corps. Mais est-ce que vous auriez idée d'une tête sans corps? Ça n'a aucun sens. Et un corps sans tête, ça fait peur. Ça n'a aucun sens. Et c'est là où, franchement, on se rend compte de la bonté de Dieu d'avoir placé son Église. Il y a quelqu'un à qui, un théologien qui s'appelle Alfred Loisy, j'ai même pris sa photo, je ne sais même pas qui c'était avant, mais l'image avec une photo. Voilà. Donc c'est lui, vous connaissez le nom? Voilà. Il a dit, Jésus annonce un merci. Une balle, un petit parasol aussi. Jésus annonçait le royaume, c'est l'Église qui est venue. Quand Christ est venu sur la terre, il a dit quoi? Je bâtirai mon Église. Bien sûr, on a tous l'espoir d'un jour être dans sa présence, ou qu'il vienne en aille lui. Mais finalement, qu'est-ce que Christ et qu'est-ce que Dieu nous a laissé pour vivre notre vie maintenant avec lui? L'Église. Je bâtirai mon Église. Nous n'avons pas été appelés à rester des individus éloignés, non, nous avons été appelés à être un corps. Et je trouvais que cette phrase était magnifique. Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Bien sûr, on attend le royaume, on sait très bien qu'un jour Dieu va revenir et en puissance et les genoux plieront devant lui et on va reconnaître et le monde entier va ce jour de jugement sera scellé. Mais en attendant, nous sommes, et un théologien, enfin, c'est pas un théologien, c'est un pasteur connu qui a dit ça. L'Église est le seul espoir du monde. Vous savez ça? Qui prêche Christ? Qui annonce le pardon de Dieu? Qui annonce cette grâce qui est faite? L'Église. Nous sommes l'espoir que le monde a de pouvoir entendre parler de Dieu. Qu'on soit petit ou qu'on soit grand, qu'on soit faible ou qu'on soit fort, nous sommes ce que Dieu a voulu que nous soyons dans des endroits différents du monde. J'ai eu l'occasion d'aller en Inde quand on était plus jeune. On est allé, on a visité des églises persécutées. Le mouvement chrétien en Inde, c'est infime, c'est zéro. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, a laissé et a placé des témoins. Ils ont payé le prix. On est allé quand on était plus jeune aussi en Afrique. On est allé au Sénégal, on est allé en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, on est allé dans des petits villages reculés, mais au fin fond de la pampa, il fallait des heures et des heures de 4x4 quand t'as la chance d'avoir la 4x4. Et c'était des églises qui se faisaient persécuter. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Je me souviens de ces gens qui étaient dans une toute petite case et quelques semaines avant, c'était la raison pour laquelle on allait visiter, ils avaient brûlé l'église. Parce qu'un marabout avait dit, bon, c'était à l'époque des tensions avec la rébellion avec le Libéria et la Côte d'Ivoire, et donc comme la Guinée était un peu coincée avec ça, et dans un village, un marabout, un des enfants rebelles qui s'est fait tirer dessus. Et donc, le marabout a dit, mais voilà, la raison pour laquelle il est mort, eh bien, c'est parce que j'avais pourtant fait un sortilège, et le sortilège faisait que les balles allaient passer à travers et ne pas faire mourir ces jeunes. Mais à cause de l'Église, le sortilège n'a pas fonctionné. Vous imaginez, hein. Qu'est-ce que l'Église, elle a fait? Ben voilà, elle s'est fait brûler parce que les enfants sont partis faire la guerre. Donc, voilà à quoi eux sont confrontés. Nous, on n'a jamais eu ça, je crois. Vous n'avez jamais eu quelqu'un qui a dit, à cause de vous, mon enfant est mort? Jamais. Eux, l'église a été brûlée, ils ont été menottés, attachés, une vieille dame, des enfants, tout. C'est. Mais pourtant, Dieu, dans sa grâce, a décidé qu'à cet endroit-là, il y aurait son corps, dont il est la tête. Parfois, on ne comprend pas pourquoi les choses sont comme ça, mais on sait que Dieu n'a pas fait, c'est pas sans son contrôle. C'est Jésus qui bâtit son église, c'est Jésus qui amène à lui des gens. C'est Jésus qui le fait. C'est pas nos efforts. Si le maître ne bâtit pas la maison, nous ne serons rien. L'Église, vous êtes avec, je crois qu'il y a deux autres communautés, je crois, sur Caraïbes, qui prêchent l'Évangile cette semaine. Vous êtes, que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou pas, vous êtes l'espoir pour Caraïbes. Vous êtes les témoins de Dieu dans cet endroit-là. Vous prêchez la parole, vous enseignez, vous le louez. On peut le faire bien, on peut le faire mal, mais on veut le faire sincèrement, honnêtement, en reconnaissant la parole comme étant autorité, ce qui a toujours été pour Dieu le plus important. À chaque fois qu'il a envoyé les prophètes, C'était parce que le peuple se détournait de la parole. Et vous êtes un espoir pour cette ville. Vous l'êtes. C'est la mission qui vous est donnée. Mais vous n'êtes même pas le chef de la mission. C'est Christ qui est le chef. Et il va l'avoir un jour. Et encore, tant que Dieu n'a pas décidé de revenir, que Jésus n'a pas décidé de revenir, il va y avoir encore des gens qui vont rentrer. Il va y avoir encore des gens qui le cherchent. Et dès que des personnes sont touchées par Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire? S'ils sont comme nous, ils lisent la parole et ils les disent, changez, faites-vous baptiser pour le pardon de Dieu. Et ils vont aller où après ça? J'espère, chercher une église qui loue le Seigneur, qui l'aime. Il va mettre en Dieu va amener vers lui des personnes qui ont reconnu qu'il était le Seigneur de son œuvre et son église va continuer à grandir. Le timing de Dieu, moi je ne le connais pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où ça marche mieux, il y a des endroits où ça marche moins bien? Ben si, je ne sais pas dans combien de temps j'ai fini. Elle est à l'heure? À quelle heure vous en allez plutôt? On doit. Alors maintenant, ça veut dire qu'on a des responsabilités. Chaque église a la même mission. On est le même corps, on a le Christ qui est à la tête, et Jésus nous amène, par son Saint-Esprit, nous amène des personnes qui viennent et qui sont touchées par sa grâce. Ça peut être touché parce que vous avez communiqué avec eux, parce que c'est des amis, des gens que vous connaissez, peu importe, d'une manière ou d'une autre, parce que vous faites une campagne d'évangélisation, ou parce que quelqu'un a touché chez lui à la maison de cherche, peu importe les moyens. Maintenant, quelle est notre responsabilité? En tant qu'Église, premièrement, nous n'avons pas le choix, être un endroit où le repentant retrouve la joie. Je pense que j'ai mis des titres, voilà. Nous devons. Alors, c'est très impératif, c'est vrai, mais nous devons être un peuple où celui qui se repent retrouve la joie. Quelqu'un qui se sent coupable devant Dieu, lorsqu'il vient au milieu de son Église, comprend qu'il est pardonné. Le pardon est là, la grâce est là. Et 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Normalement, un chrétien, quelqu'un qui est touché par Dieu au milieu de nous, il n'est pas constamment avec un doigt pointé sur lui, on le rend constamment coupable. Il doit retrouver la joie de la repentance. C'est un bonheur, Dieu m'a fait grâce. Et donc, c'est pour ça que dans l'Écriture, il est toujours dit « soyez joyeux ». Ce n'est pas faire semblant, c'est « soyez joyeux ». Dieu vous a fait grâce. Il y a des moments où on pleure dans l'Écriture, il dit pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais en tant que tel, un repentant, quelqu'un qui rentre, qui ne connaît pas Dieu, mais qui a le cœur lourd devant Dieu, parce que Dieu le pousse, le Saint-Esprit pousse à la condition du péché, il retrouve la joie. Peut-être que vous avez vécu ça aussi. Vous voyez le jour d'une conversion de quelqu'un, il est allégé. Il demande pardon à Dieu, et puis après ça, parfois ça se fait dans les larmes, mais après il est joyeux. Il a son poids est ôté de lui. La deuxième chose, on doit être un peuple où l'honnêteté est une valeur absolue. Puisqu'il y a cette idée de changer, ne commettez plus de fautes, ne mentez plus, ne soyez pas hypocrite. On ne peut pas être autre chose. On ne peut pas se mentir les uns les autres. Et pourtant, moi, je peux vous dire que dans ma petite expérience de vie chrétienne, j'en ai eu des coups, et pas souvent, et des coups durs, hein, mais de la part de frères et sœurs. Ça vous arrive, ça m'arrive, pour la faute de Dieu. Et on est des pécheurs ensemble, et parfois on prend des coups. Mais moi, parce que j'avais le choix, à part pardonner, j'ai pas beaucoup d'options. Et j'ai pas d'autre option que de dire, Seigneur, c'est toi qui, à toi la vengeance, à toi la rétribution, c'est toi qui t'occupe de ça, moi je pardonne, je ne peux pas faire autrement, je laisse ça entre tes mains. On doit être un peuple aussi où la fidélité est une valeur. Être fidèle, c'est donner son engagement. Quand on donne sa parole, on la garde, on la tient. Lorsqu'on rend des services, on la tient. On a une fidélité en nous. Il n'y a rien de pire que d'entendre aujourd'hui que 50% des mariages chrétiens meurent de la même manière que les mariages non chrétiens. Toutes statistiques confondues, la fidélité, elle a pris un grand coup aujourd'hui. Pourtant, c'est un peuple où la fidélité doit être quelque chose d'absolu. Moi, je dis souvent à ma femme, je dis, mes chéris, jamais je te quitterai, parce que j'ai promis à Dieu. Ouais, mais tu m'aimes pas, c'est pas pour moi. Je dis, mes chéris, c'est beaucoup plus sûr que j'obéisse à Dieu que je t'aime. Parce qu'il y a des moments où, honnêtement, je t'aime pas. Il y a des moments où. Mais c'est pareil, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je dis, chérie, c'était juste par amour. Ça fait longtemps que je t'ai quitté, moi. Toi aussi? Non, c'est parce que j'ai donné ma parole à Dieu que jamais je divorcerai. J'ai dit alors, n'en profite pas d'abord. Elle ne le fait pas, bien sûr. Mais je lui dis, c'est ta plus grande assurance. Mais comme les femmes, elles aiment bien les histoires romantiques, alors vous je passe les détails. Ça devient trop précis. On doit être un peuple qui dégage l'odeur de sainteté. Dégager l'odeur de sainteté, ça veut dire que autour de vous, autour de moi, on doit être reconnu comme des gens qui sont des gens de valeur. Ça veut dire, ce gars-là, jamais il te trahira. Un bête exemple, mon voisin qui fait de la peinture chez lui, il veut faire la peinture, c'est un dentiste, il a les moyens, bref. Et j'ai un jeune à l'église qui vient d'arriver. À l'époque, c'était un dealer, le garçon. À l'époque, c'était un gars qui volait, qui trichait, toutes sortes de choses. Il s'est converti, il a mis sa vie en ordre devant Dieu, mais total. Il n'y a pas tellement longtemps, un an et demi. Et mon voisin me dit, ah, mais voilà, je dois faire le plafond. Bon, vous imaginez que chez un dentiste, tout ce qu'il a, c'est trois fois plus cher que ce que vous pouvez avoir. Et il me dit, ah, je cherche quelqu'un pour faire la peinture en haut. Mais moi, je connais un jeune. Tu dois avoir totalement confiance, il n'y a jamais rien qui va disparaître de ta maison. Parce que lui, il flippe un peu. Et ben voilà. Ça, pourquoi est-ce que je peux m'engager pour mon copain? Parce que je sais qu'il a une odeur de sainteté. C'est un gars en qui il peut avoir confiance. Et moi, je le recommande aussi, en disant, mais vas-y, tu peux avoir confiance. C'est ça, un peuple de sainteté. C'est ça, quand on nous loue à l'époque, à l'extérieur, en disant, mais ça, ce sont des gens qui peuvent avoir confiance. S'il a une dette, il va te la rembourser. S'il a un problème, il sera là. Ça, c'est ça, avoir l'odeur de sainteté. Et un peuple où ceux qui cherchent Dieu trouvent son église réunie autour de sa parole. Je repense à mon petit Gustavo, là, mon gars tatoué qui fait peur. Honnêtement, j'étais heureux qu'il rentre dans l'église. J'étais heureux de le voir être accueilli aussi par des gens. Moi, mon église, où je suis aujourd'hui, c'était une église, honnêtement, où jamais j'aurais été de ma vie. C'était une église stricte, fermée, complètement repliée sur elle-même. Quand tu rentrais le dimanche matin, tu ne te saluais pas, tu t'asseyais sur le banc qui grinçait, tu ne voulais pas faire de bruit parce que tu avais l'impression de déranger Dieu. Donc tu ne te sentais absolument pas accueilli. Cette église mourait. Et honnêtement, elle aurait bien fait de mourir. Parce que ce n'est pas l'église de Dieu, ça. Ça, c'est une espèce d'amas de traditions où le pécheur se sent super mal, le repentant ne trouve pas la joie, et où le chrétien a peur de déranger. Donc bref, c'était la fin de cette église. Et merci Seigneur, les choses ont changé, les cœurs sont évolués, ont changé. Et maintenant, quand quelqu'un avance, parce que dans toute la région de Dijon, elle était connue comme étant l'église où il ne fallait pas aller. Elle avait mauvaise réputation. Et maintenant, les gens viennent, et c'est encourageant parce que quand on leur demande qu'est-ce qui vous a attiré à rester, eh bien, ils nous disent l'accueil, la prière et la bonne humeur. La bonne humeur, c'est un café en arrivant. Une main qui est tendue à celui que tu n'as jamais vu. Il ne va pas te manger, il veut juste être accueilli. Et bien, nous, moi, je trouvais ça un peu fou de faire une espèce de spécialité des gens de l'accueil. Non! Tout le monde accueille. On n'a pas les spécialistes de l'accueil qui disent bonjour. Ta mère t'a appris à dire bonjour depuis que tu étais petit. Et bien, quand quelqu'un rentre à l'église, tu dis bonjour. Tu l'accueilles. L'accueil, c'est pas l'hospitalité, c'est pour tout le monde. Et donc, depuis maintenant un petit temps, l'église, elle est devenue comme ça. Elle est devenue joyeuse. Les gens s'accueillent. Très joyeux, c'est ce que je disais. Il y a des moments où à 10h10, là, je regarde et je dis tiens, ils ne sont pas encore là. Ils ont pris le côté un peu cool, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais en même temps, vous voyez, à l'époque, ça aurait été impensable d'arriver en retard. Maintenant, il y a quand même une plus grande joie. Et quand mon Gustavo est arrivé, ce garçon, il s'est senti accueilli. Pourquoi? Parce que son désir, c'est de chercher un endroit où il va être le repentant qu'on écoute. Il ne serait pas tombé sur mon père qui lui aurait dit demander pardon, c'est facile. Il tombe sur une église qui comprend que demander pardon, c'est la chose la plus importante. Il s'assied avec nous, il loue Dieu. Et nous, on est heureux de voir que Dieu rajoute à son église ceux qui sont sauvés. Ça, c'est la plus belle église, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, c'est là où le repentant arrive et est accueilli. Ça va? Bon, ça va. Pourtant, il me semble qu'il y a des gens qui viennent des autres pays, j'ai déjà entendu des Amen à certains moments et compagnie. Ne vous inquiétez pas, Dijon, c'est pareil. À chaque fois, je les pousse en leur disant ils n'avaient pas pris assez de café, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je termine avec ça. Son église, c'est son église. Vous êtes son Église. Il vous a appelé dans son Église pour être son peuple, parce qu'il est votre tête. Et Dieu continue, tant qu'il n'est pas revenu, continue à amener les gens. Alors moi, la seule chose que je vous dis, persévérez. Je ne sais pas par quel moment difficile vous passez, mais toutes les églises passent par des moments difficiles. Je n'en connais pas une seule qui ne passe pas par des moments difficiles. Mais persévérez. Non pas parce que vous le méritez, non pas parce que vous êtes les meilleurs, non pas parce que vous êtes les plus fidèles, même si tout ça c'est important, mais parce que vous n'avez pas d'autre possibilité que d'être l'Église, puisque vous êtes l'Église. Ce n'est pas un bâtiment, c'est ce que vous êtes. Vous l'êtes. Vous avez été déclaré Église de Dieu. L'espoir de ce monde. Et à chaque fois que quelqu'un va revenir, considérez ça comme étant une grâce que Dieu fait, de vous amener au milieu de vous quelqu'un qui se repent et qui veut demander pardon. Seigneur, merci pour ta grâce envers cette église ici à Cavaillon. Merci pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu ne nous appelles pas par hasard. Seigneur, tu as même dit que tu nous avais donné des dons à chacun et qu'on puisse les mettre au service des autres. Je te prie pour ces frères et sœurs, Seigneur, ceux qui sont dans la foi depuis pas longtemps, et puis pour les plus aînés, les plus âgés dans la foi, ceux qui ont marché, Seigneur, dans la persévérance avec toi. Que cette persévérance serve de modèle, Seigneur, aux plus jeunes, et que la vivacité et la vitalité des plus jeunes servent d'encouragement et de joie aux plus âgés. Merci, Seigneur, parce que tu as décidé de placer une église ici à Carré. C'est ta volonté, tu l'as décidé. Tu continueras, Seigneur, à l'utiliser pour faire connaître ton nom, Seigneur. Et je te prie pour qu'elle puisse rester encore, Seigneur, cette église. Nous savons qu'un jour tu reviendras, tu nous récompenseras tous, Seigneur. Tu diras cette phrase que nous espérons, que nous aspirons. Viens, rentre dans la joie de ton maître, bon fidèle Seigneur. Seigneur, il y a des moments où on est abattu, il y a des moments où on n'arrive pas. Il y a des moments, Seigneur, où on a besoin d'un encouragement, d'une tape dans le dos. Il y a des moments, Seigneur, où on a juste envie d'entendre aussi ta voix nous dire je te pardonne. Reviens. Mais Seigneur, nous savons. Nous savons que trop bien, Seigneur, tu es ce Dieu de grâce. Heureusement que tu ne nous gères pas, Seigneur, en fonction de ce que nous méritions, Seigneur, mais en fonction de ce que tu as fait subir à ton Fils. Merci, Seigneur, de bâtir ton Église. Au nom de Jésus. Amen.